Au moment où il se disait ces paroles enragées, il était chez Urbain et y dînait à 40 sous. Le lendemain, à 9h, il alla chez Louise dans l'intention de lui reprocher sa barbarie. Non seulement Madame de Bargeton n'y était pas pour lui, mais encore le portier ne le laissa pas monter. Il resta dans la rue, faisant le guet jusqu'à midi. À midi, du Châtelet sortit de chez Madame de Bargeton, vit le poète du coin de l'œil et l'évita. Lucien, piqué au vif, poursuivit son rival. Du Châtelet, se sentant serré, se retourna et le salua dans l'intention évidente d'aller au large après cette politesse. « De grâce, monsieur, dit Lucien. Accordez-moi une seconde, j'ai deux mots à vous dire. Vous m'avez témoigné de l'amitié, je l'invoque pour vous demander le plus léger des services. Vous sortez de chez Madame de Bargeton. Expliquez-moi la cause de ma disgrâce auprès d'elle et de Madame d'Espard. » Monsieur Chardon, répondit du Châtelet avec une fausse bonhomie. Savez-vous pourquoi ces dames vous ont quitté à l'opéra? Non, dit le pauvre poète. Eh bien, vous avez été desservi dès votre début par monsieur de Rastignac. Le jeune dandy, questionné sur vous, a purement et simplement dit que vous vous nommiez monsieur Chardon et non monsieur de Rubempré. Que votre mère gardait les femmes en couche, que votre père était dans son vivant apothicaire à Noumeau, faubourg d'Angoulême. Que votre sœur était une charmante jeune fille qui repassait admirablement les chemises. Et qu'elle allait épouser un imprimeur d'Angoulême nommé Séchard. Voilà le monde. Mettez-vous en vue, il vous discute. Monsieur de Marsay est venu rire de vous avec Madame d'Espard, et aussitôt, ces deux dames se sont enfuies en se croyant compromises auprès de vous. N'essayez pas d'aller chez l'une ou chez l'autre. Madame de Bargeton ne serait pas reçue par sa cousine si elle continuait à vous voir. Vous avez du génie, tâchez de prendre votre revanche. Le monde vous dédaigne, dédaignez le monde. Réfugiez-vous dans une mansarde, faites-y des chefs-d'œuvre, saisissez un pouvoir quelconque et vous verrez le monde à vos pieds. Vous lui rendrez alors les meurtrissures qu'il vous aura faites là où il vous les aura faites. Plus Madame de Bargeton vous a marqué d'amitié, plus elle aura d'éloignement pour vous. Ainsi vont les sentiments féminins. Mais il ne s'agit pas en ce moment de reconquérir l'amitié d'Anaïs. Il s'agit de ne pas la voir pour ennemie et je vais vous en donner le moyen. Elle vous a écrit, renvoyez-lui toutes ses lettres. Elle sera sensible à ce procédé de gentilhomme. Plus tard, si vous avez besoin d'elle, elle ne vous sera pas hostile. Quant à moi, j'ai une si haute opinion de votre avenir que je vous ai partout défendu et que dès à présent, si je puis ici faire quelque chose pour vous, vous me trouverez toujours prêt à vous rendre service. Lucien a été si morne, si pâle, si défait, qu'il ne rendit pas au vieux beau rajeuni par l'atmosphère parisienne le salut sèchement poli qu'il reçut de lui. Il revint à son hôtel où il trouva Staub lui-même, venu moins pour lui essayer ses habits, qu'il lui essaya, que pour savoir de l'hôtesse du Gaillard-Bois ce qu'était sous le rapport financier sa pratique inconnue. Lucien était arrivé en poste. Madame de Bargeton l'avait ramené du Vaudeville jeudi dernier en voiture. Ses renseignements étaient bons. Staub nomma Lucien Monsieur le Comte et lui fit voir avec quel talent il avait mis ses charmantes formes en lumière. « Un jeune homme mis ainsi, lui dit-il, peut s'aller promener aux Tuileries. Il épousera une riche Anglaise au bout de 15 jours. » Cette plaisanterie de tailleur allemand et la perfection de ses habits, la finesse du drap, la grâce qu'il se trouvait lui-même en se regardant dans la glace, ces petites choses rendirent Lucien moins triste. Il se dit vaguement que Paris était la capitale du hasard, et il crut au hasard pour un moment. N'avait-il pas un volume de poésie et un magnifique roman, L'Archer de Charles IX, en manuscrit? Il espéra dans sa destinée. Staub promit la redingote et le reste des habillements pour le lendemain. Le lendemain, le bottier, la lingère et le tailleur revinrent tous munis de leurs factures. Lucien ignorant la manière de les congédier. Lucien, encore sous le charme des coutumes de province, les soldats. Mais après les avoir payés, il ne lui resta plus que 360 francs sur les 2000 francs qu'il avait apportés à Paris. Il y était depuis une semaine. Néanmoins, il s'habilla et alla faire un tour sur la terrasse des Feuillants. Il y prit une revanche. Il était si bien mis, si gracieux, si beau, que plusieurs femmes le regardèrent, et deux ou trois furent assez saisis par sa beauté pour se retourner. Lucien étudia la démarche et les manières des jeunes gens, et fit son cours de belle manière tout en pensant à ses 360 francs. Le soir, seul dans sa chambre, il lui vint l'idée d'éclaircir le problème de sa vie à l'hôtel du Gaillard-Bois, où il déjeunait des mets le plus simple en croyant économiser. Il demanda son mémoire en homme qui voulait déménager. Il se vit débiteur d'une centaine de francs. Le lendemain, il courut au Pays Latin que David lui avait recommandé pour le bon marché. Après avoir cherché pendant longtemps, il finit par rencontrer, rue de Cluny, près de la Sorbonne, un misérable hôtel garni, où il eut une chambre pour le prix qu'il voulait y mettre. Aussitôt, il paya son hôtesse du Gaillard-Bois et va s'installer rue de Cluny dans la journée. Son déménagement ne lui coûta qu'une course de fiacre. Après avoir pris possession de sa pauvre chambre, il rassembla toutes les lettres de Madame de Bargeton, en fit un paquet, le posa sur sa table, et avant de lui écrire, il se mit à penser à cette fatale semaine. Il ne se dit pas qu'il avait, lui, le premier, étourdiment renié son amour, sans avoir ce que deviendrait sa Louise à Paris. Il ne vit pas ses torts, il vit sa situation actuelle. Il accusa Madame de Bargeton. Au lieu de l'éclairer, elle l'avait perdue. Il se courroussa, il devint fier, et se mit à écrire la lettre suivante dans le paroxysme de sa colère. « Madame, que diriez-vous d'une femme à qui aurait plu quelque pauvre enfant timide, plein de ces croyances nobles que plus tard l'homme appelle des illusions, et qui aurait employé les grâces de la coquetterie, les finesses de son esprit et les plus beaux semblants de l'amour maternel pour détourner cet enfant. Ni les promesses les plus caressantes, ni les châteaux de cartes dont il s'émerveille ne lui coûtent. Elle l'emmène, elle s'en empare, elle le gronde de son peu de confiance, elle le flatte tour à tour. Quand l'enfant abandonne sa famille et la suit aveuglément, elle le conduit au bord d'une mer immense, le fait entrer par un sourire dans un frêle esquif et le lance seul, sans secours, à travers les orages. Puis, du rocher où elle reste, elle se met à rire et lui souhaite bonne chance. Cette femme, c'est vous. Cet enfant, c'est moi. Aux mains de cet enfant se trouve un souvenir qui pourrait trahir les crimes de votre bienfaisance et les faveurs de votre abandon. Vous pourriez avoir à rougir en rencontrant l'enfant aux prises avec les vagues si vous songiez que vous l'avez tenu sur votre sein. Quand vous lirez cette lettre, vous aurez le souvenir en votre pouvoir. Libre à vous de tout oublier. Après les belles espérances que votre doigt m'a montrées dans le ciel, j'aperçois les réalités de la misère dans la boue de Paris. Pendant que vous irez brillante et adorée à travers les grandeurs de ce monde sur le seuil duquel vous m'avez amenée, je grelotterai dans le misérable grenier où vous m'avez jeté. Mais peut-être un remords viendra-t-il vous saisir au sein des fêtes et des plaisirs? Peut-être penserez-vous à l'enfant que vous avez plongé dans un abîme? Eh bien, madame, pensez-y sans remords. Du fond de sa misère, cet enfant vous offre la seule chose qui lui reste, son pardon dans un dernier regard. Oui, madame, grâce à vous, il ne me reste rien. Rien! N'est-ce pas ce qui a servi à faire le monde? Le génie doit imiter Dieu. Je commence par avoir sa clémence, sans savoir si j'aurai sa force. Vous n'aurez à trembler que si j'allais à mal. Vous seriez complice de mes fautes. Hélas, je vous plains de ne pouvoir plus rien être à la gloire vers laquelle je vais tendre, conduit par le travail. Lucien. Après avoir écrit cette lettre emphatique mais pleine de cette sombre dignité que l'artiste de 21 ans exagère souvent, Lucien se reporta par la pensée au milieu de sa famille. Il revit le joli appartement que David lui avait décoré en y sacrifiant une partie de sa fortune. Il eut une vision des joies tranquilles, modestes, bourgeoises qu'il avait goûtées. Les ombres de sa mère, de sa sœur, de David vinrent autour de lui. Il entendit de nouveau les larmes qu'ils avaient versées au moment de son départ, et il pleura lui-même, car il était seul, dans Paris, sans amis, sans protecteur.